je pouvais et me sentais devoir donner à Paris cet hiver, je pensais particulièrement aux trois croix, aux trois axes de l'horoscope, aux trois axes de la roue, aux trois croix dont la combinaison fait les 12 signes ou les 12 maisons. Et je me propose en effet, au cours des conférences qui vont venir, mais sans me lier à une date fixe, car je dépends un peu beaucoup de l'inspiration qui me vient deux ou trois jours et quelquefois deux ou trois heures avant la conférence. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous vivons dans un monde de chaos et de hasard. Je ne pense pas que c'est une coïncidence qui nous réunit à nouveau ce soir ici. Pour ma part, je suis persuadé que ce n'est pas du tout une coïncidence qui me fait être à Paris en ce moment précis et jouissant de l'immense privilège d'un auditoire tel que le vôtre, dans lequel je connais tant de très excellentes âmes, puisque je les ai connues déjà depuis plus de 2 ans. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose d'absolument merveilleux, pour ne pas dire magique, en tout cas sacré, dans les associations humaines, lorsqu'elles sont de la même corbeille, lorsqu'elles cherchent ensemble certaines choses. L'union fait la force, nous le savons, c'est une banalité, ça. Mais il y a certaines choses qui, quand elles sont dites dans un certain cadre, et à un certain moment, elles prennent une vigueur toute nouvelle, et même ont réussi une pénétration plus profonde. Et j'avoue que quelquefois, je suis bâti de telle façon que je compte sur le stimulant, le circuit psychique d'un auditoire qualifié pour créer en moi-même ou pour faire sortir de moi-même certaines acuités de perception que je n'obtiens pas quand je suis dans la solitude. Voilà qui est dit. Par conséquent, je compte sur vous pour me faire découvrir aussi d'une façon indirecte peut-être, certaines vérités nouvelles que je cherche sans savoir exactement où les trouver et sans même savoir leur nom toujours. Mais, alors je vais vous parler cet hiver des trois axes. Les trois axes, on l'oublie quelquefois. Nous avons l'axe de la croix cardinale, nous avons l'axe de la croix fixe, nous avons l'axe de la croix dite mutable. Or, l'axe de la croix cardinale, c'est un axe qui est essentiellement le système de référence de l'incarnation de l'être. Une des raisons évidentes de cela, c'est que le pied de cette croix, c'est le principe lunaire, c'est la lune, et que la lune entoure à tout moment les trois axes, elle déborde tout, elle est la limite de ce que l'homme peut vivre dans une incarnation. Elle n'est pas la qualité de ce qu'il peut vivre, mais elle est la limite. Elle est la limite de l'expérienceable. Elle forme le cadre circulaire, presque circulaire, puisque son mouvement est une sorte d'ellipse. C'est le cadre presque circulaire dans lequel évolue le solaire humain, l'être enfin, de la Terre. Alors cela, c'est le cadre, c'est le système de référence à proprement parler de l'incarnation. C'est l'investissement de l'être dans un temps donné, dans un espace donné, pour des expériences données. De cet axe qui est formidable, je me propose de parler en détail dans le prochain avenir. Vous voyez que si nous prenons cet axe comme un système de référence, les autres maisons d'astrologie, les autres signes ici, deviendront des dérivés de l'axe. Et c'est là une des sources, une des clés des définitions indirectes ou des définitions dérivées que toute maison, tout signe contient. Nous sentons bien qu'il y a 12 fois 12 significations dans chaque maison, plus particulièrement, si vous voulez, 12 signes, bien que pour le zodiaque de la Terre, signes et maisons sont identiques. 144 définitions sont à trouver par l'homme dans chacune des maisons. Il va de soi que nous ne trouverons jamais ça dans notre état terrestre, dans notre état d'incarnation. Nous n'avons ni le temps ni les moyens. Mais nous en trouvons graduellement bien des éléments. Alors, vous comprenez, voilà, par exemple, une nouvelle façon, peut-être pour quelques-uns d'entre vous, de concevoir les axes comme système de référence pour les maisons qui leur sont subordonnées. Nous avons la croix fixe. La croix fixe, c'est la croix de l'être. Ah, c'est la croix solaire. C'est la croix de l'être incarné. C'est à propos de lui que se fait cette incarnation. C'est lui qui est incarné par la croix cardinale. Le système de référence de l'être, c'est la croix fixe. Et enfin, nous avons le système de référence de l'esprit. Nous pouvons choisir d'autres termes. Je ne veux pas chicaner ce soir parce que je voudrais faire vibrer l'auditoire à quelque chose de très spécifique ce soir en relation avec les événements politiques d'aujourd'hui. Alors, il y a alors la croix mentale, si vous voulez. Car enfin, c'est dans le Sagittaire que l'œil de l'homme voit l'œil de Dieu. Ce n'est pas une affaire du cœur, le Sagittaire. C'est une affaire de l'intelligence. C'est une affaire de la lumière. Alors, le mental de l'homme atteint quelque chose de la robe du mental divin dans le Sagittaire. Alors, nous avons l'axe mental, le Sagittaire. L'axe de la croix mutable. Nous avons l'axe de l'être, la croix fixe. Nous avons l'axe de l'incarnation de l'être, la croix cardinale. Et il va de soi, on peut saisir alors que la croix mutable, qui est donc la croix des mutations, qui est représentée si éloquemment par le centaure qui se transforme en un homme, le cheval en homme, pour le Sagittaire, qui marque bien l'évolution de la vie et des formes et des qualités des êtres, et de tous les soleils, on comprend que cette croix-là, la mutable, elle est le facteur déterminant cet état essentiellement, alors, mental, dans lequel il y a deux Mercure, dans lequel il y a Neptune, dans lequel il y a le Jupiter. Cela est essentiellement ce qui va dicter la signification, le programme de la croix cardinale à venir. Et le placement de la croix fixe, la croix du soleil. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la croix fixe? Mais parce que tout est fixe là-dedans. Le cardinal nous montre le changement perpétuel. C'est la croix dans laquelle la fonction lunaire est absolument capitale. C'est le mouvement perpétuel, la cardinale. Le gond de la porte, comme dit le mot cardinal, ça tourne tout le temps. Mais la fixe, c'est ce qui est foncièrement, essentiellement, relativement évidemment, mais en somme, entre, c'est le principe de l'immobile. C'est le principe du soi, c'est le principe de ce qui est fixe au sein de tout ce qui est mouvant. La grande pensée, la grande vieille pensée de l'Antiquité qui dit l'immortalité, c'est la faculté de demeurer toujours le même tout en étant toujours différent, eh bien d'être toujours le même, c'est la fixe, d'où l'idée de la fixité, et d'être toujours différent, c'est la cardinale. Et la combinaison des deux, la combinaison des deux, le rapport entre les deux, c'est la mutable, c'est le mental. Car l'intelligence, c'est le rapport qu'il y a entre le fixe et le mouvant. Ceci à titre de préambule. Alors ce soir, je touche simplement, je prendrai ces trois axes dans les soirées à venir, dans un ordre que je ne peux pas préciser maintenant. Je vais prendre ce soir un élément de la croix fixe, et c'est pour ça que j'ai introduit toute cette notion de la croix fixe, enfin de ces trois axes. Vous m'avez parlé du rapport Verseau-Lion. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc je vais prendre le rapport d'Uranus et du signe complémentaire de lui, le Lion, c'est-à-dire notre petit soleil personnel. Notre soleil personnel, c'est ce qu'il y a vraiment d'acquis, de fixité acquise une fois pour toutes, pour chacun de nous. Notre soleil, c'est ce qui a été vraiment l'acquis. C'est ce que nous appelons vraiment notre âme personnelle. Là, c'est l'acquis, c'est fait. C'est la vie du cœur de l'univers en nous qui est identifiable à nous-mêmes. C'est ça, d'abord. Oh, peu de choses, on pourrait dire rien là-dessus. Mais bref. Vous allez voir pourquoi j'insiste tout à coup ce soir sur cet Uranus et le Soleil, parce que je viens à parler de Uranus dans le signe du Lion, qui est à l'origine de tout ce qui se passe en ce moment-ci. Uranus dans le signe du Lion, dans le signe qui lui est complémentaire, on a dit le signe opposé. Alors, précisément, quand une planète se trouve passant en transitant dans le signe qui lui est opposé à celle dont elle a la maîtrise, lorsqu'il passe au signe opposé, il est bien plus fort que lorsqu'il est dans les signes intermédiaires. Sa polarité est là. Uranus, Verseau, avec tout ce que vous savez déjà de sa fonction dans laquelle de laquelle je m'en vais reparler très brièvement, et surtout le diagramme est éloquent à ce sujet, Uranus n'est pas directement intéressé au cancer, ni au Gémeaux, ni au Taureau. Il est directement intéressé, mais alors absolument, c'est une question de polarité et de priorité, au Lion. Les schémas sont extrêmement simples. Mais vous avez une telle réalisation du symbolisme. Qu'est-ce que vous avez là-haut? Des cercles concentriques. Ces cercles concentriques, c'est Uranus même. C'est ça, Uranus. Ce sont des soleils les uns dans les autres. C'est ça, Uranus. On va pas chercher midi à 14h, c'est ça, Uranus. Quand vous avez le cercle, quand vous avez un cercle, moi, je fais des cercles carrés. Quand vous avez un cercle, vous avez quelque chose qui est absolument unique au monde. Le symbolisme du cercle est quelque chose de toujours qui va de transcendance en transcendance. C'est le 1 initial, c'est la passerelle entre l'absolu ou le transcendant et l'immanent, le révélé, la manifestation. C'est la passerelle, elle est là. C'est l'immobile, c'est le grand point, en lettres majuscules, le point. Parce que alors, toute la surface, ou si vous voulez, toute la périphérie du cercle, c'est pas un cercle, c'est une sphère. Exactement, c'est un point. Le moment où vous mettez un point au centre, attention, vous avez tout changé. Mettez un point au milieu du cercle, et vous avez tout changé. Et nous avons dans nos thèmes, c'est très significatif, le soleil est représenté par un cercle avec le point au centre, indiquant par là qu'il n'a rien de final, parce que le cercle sol, il est une finalité. Il a achevé, il n'y a pas de devenir à ça. Il est la durée pure, il est soi, puis c'est fini. Il est l'éternel, le cercle. Mais mettez-lui le point, et alors c'est une sorte l'éternité relative qui se découpe en durée, par conséquent, c'est notre soleil, c'est notre fixité à nous, qui a un devenir, c'est une fixité qui va croître oh, sur elle-même, c'est le devenir de l'âme sur elle-même, dans la succession permanente de la croix fixe, de croix fixe en croix fixe. Car Uranus, alors oui, voyez-vous, ce point au centre, vous vous dites quelques-uns d'entre vous qui sont probablement nouveaux au symbolisme de l'astrologie, il y a tout symbolisme, comme à toute métaphysique de cet ordre, vous vous dites, mais de quoi, qu'est-ce qu'il voit dans ce point dans le centre? Mais c'est très simple, vous allez voir ce que je vois. Ce point, comme nous faisons ça à deux dimensions, nous sommes bien obligés de le mettre au centre, mais si il représente ceci, ce point. Il est là, en réalité. Il est là, ce point. Il est là, seulement on ne peut pas le mettre là à condition de faire tout ça. Alors on résume tout ça en faisant simplement ceci. Parce que tout ce qui vit fonctionne selon la loi des causes. Cet été, quelques-uns d'entre vous ont lu un article de Match sur Cézanne. Un admirable article sur Cézanne dans Match. Cet être extraordinaire dans sa 17 phrases dans son journal. Tout dans la nature se construit selon la loi de la sphère, du cône et du cylindre. C'est la phrase de lui-même. La religion qu'il avait, la dévotion qu'il avait pour tout objet, pour la moindre chose. Il disait à ses élèves, mais payez s'il vous plaît un tuyau de cheminée, il y a un monde là-dedans. N'est-ce pas? Et il avait 100 fois raison. Alors voilà, le point que vous avez au centre de votre cercle, qui est votre soleil dans un thème, mais en réalité, si on voulait le construire dans sa structure multidimensionnelle, représentera toujours le mouvement d'un cône. Par conséquent, ce n'est pas un véritable cercle, c'est une base conique qui se propose par la structure conique un déroulement, un développement le long du cône, par conséquent en spirale, d'où nous avons le principe des orbitales planétaires, mais toujours le long de l'axe de l'être, l'axe solaire, et voilà, vous voilà votre soleil, votre cercle, votre point au centre, et vous montez cet axe-là pour arriver ici, qui est le centre de tous ces cercles, tous plus grands que le vôtre, mais les uns hiérarchiquement plus petits que les autres. C'est la galaxie de votre soleil, ça représente la constellation des âmes de votre âme, des soleils de votre soleil. C'est le lien organique de votre être. Votre être qui est le soleil, avec ses attributs, il est lié organiquement, il est lié absolument indissolublement à une collection de soleils dont il n'a la connaissance que par l'intérieur de lui-même et par le jeu des perpendiculaires ou des verticales de sa croix. Et je ne veux pas insister pour le moment sur Uranus pour ceux qui sont nouveaux, ou plus ou moins nouveaux, je n'ai pas le temps, mais je voulais ramener cette notion, l'expliciter un instant pour faire comprendre par le simple, par l'éloquence d'un diagramme, la puissance de l'opération qui a lieu maintenant lorsque cette planète qui est ça combinée, vous comprenez, ces cercles sont dedans, mais en réalité ils sont là, les uns après les autres, ils sont là. C'est la fameuse échelle de Jacob. Qui descendait l'échelle de Jacob que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Le rêve de Jacob, mais qui descendent, les anges qui descendent de l'échelle de Jacob? Mais c'était ceux, c'était les âmes de son âme, c'était le tout son monde intérieur organiquement constitué, parti de lui-même depuis des antiquités millénaires. C'était tout ce groupe d'archétypes qui descendait à lui parce qu'il est une partie vitale d'eux. Et d'autre part, les anges remontaient au centre du ciel, mais parce que c'était lui aussi qui remontait à eux, c'est une navette. La vie intérieure de chacun de nous, mais c'est une navette. Vous êtes un des pôles et l'autre pôle se perd dans l'infini du ciel intérieur. Mais il y a une loi de relation, et la loi de relation est représentée tout simplement par l'escalier ou l'échelle de Jacob. C'est toujours la quadrature, c'est toujours les 90 degrés, c'est la montée, c'est la loi même, de tout déploiement, puisque la spirale ne marchera bien qu'à ces conditions-là, et que le développement du devenir sur l'axe de l'être ne se fera d'une façon absolument normale et pleine que de cette façon-là. Ceci dit, alors, en bref, ceci représentera Uranus, ceci le Soleil, ceci représentera le domaine du Verseau, proprement dit, ceci le domaine du Lion. Uranus entre dans le Lion. Lion, ce printemps. Il va y rester 7 ans. Ceux d'entre vous qui ont des planètes dans le Lion vont s'en apercevoir. Surtout si l'Uranus est excellent dans leur thème. Ceux qui l'ont dans le Taureau et qui ont des planètes dans le Taureau et le Scorpion, ils vont aussi s'en apercevoir. Et remarquablement bien, si ces planètes sont en accord fondamentaux avec l'Uranus radical. Ça va de soi. Mais maintenant, nous parlons du climat de notre époque. le climat psychique de cette année, et qui commence cette année. Uranus dans le lion, ça représente la fée qui vient à minuit à Cendrillon, le petit soleil, perdu là dans sa cinquième maison, dans son cinquième cycle. Ce petit être qui se croit perdu dans l'univers, qui se croit isolé, qui se rattache à ce qu'il peut, à gauche et à droite, sans savoir qu'il a derrière lui une arête, une colonne vertébrale du tonnerre. Et c'est ça qu'il va devoir apprendre. Alors Uranus, c'est la mémoire, c'est le génie de sa nature. C'est le génie propre à sa nature, c'est un acquis absolument indissoluble qui est en lui, au tréfonds de lui-même, c'est l'archétype de l'inconscient collectif, comme dirait la psychologie jungienne. Bon, c'est l'ange gardien, si vous voulez, dans la religion chrétienne. Ça fait des génies quand il est conjoint à Mercure dans un thème. Ça fait des Mozart. Alors, les gens qui ont cette conjonction, Mercure par exemple, Mercure surtout et Uranus, savent toujours plus qu'ils ne savent qu'ils ne savent. Et ils n'ont jamais besoin de s'expliquer aux autres, parce qu'ils ne peuvent pas s'expliquer aux autres. Ils ne comprennent pas qu'on leur demande des explications. La chose va de soi avec une densité essentielle en eux-mêmes. Voilà l'Uranus. C'est une puissance donc de libération du soleil du lion. Enfin, les grands signes, maîtres des puissances profondes de la vie, commencent donc à partir du vent du Sagittaire jusqu'au Poisson. Mais c'est eux qui libèrent tout le petit être qui se trouve dessous l'horizontale de la croix, cardinale. Uranus arrive là et il regarde les hommes. Et il leur dit, mais mes enfants, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pendant que Pluton passait le signe du lion, qu'est-ce qui est arrivé? Depuis 1939, à ce mois dernier où il a changé définitivement de signe dans la Vierge maintenant. Depuis l'automne 39 à l'automne 56, qu'est-ce que nous avons pris avec Pluton dans le lion? D'abord, la Seconde Guerre mondiale. Mais analysons rapidement certaines caractéristiques, certaines arêtes spéciales de cette fonction du petit soleil de nous tous, de notre être individuel. Car en somme, c'est le fixe en nous. C'est ce qui a strictement, autonomement, nous. Nous, c'est ça, c'est ce lion. Alors, tout le temps dans le lion a fait transformer l'homme en une bête de somme. C'est la bête de somme. Il a dit à l'homme, qu'est-ce que tu es? Tu crois que tu es un homme? Non, tu es une bête de somme. The beast of burden. Je résume ça en cette phrase. Bête de somme. Le résultat, l'action soviétique de toute cette époque. Nous ne voulons pas retourner en arrière. Je reste sur le signe du lion, n'est-ce pas? Pendant que Pluton est dans le lion, s'est développé. Les nazis, l'homme bête de somme. Le soviet, l'homme bête de somme. Par nécessité, les pays libres ont dû transformer leurs citoyens en bêtes de somme, dans les armées, dans les usines. Nous sommes tous devenus des numéros engagés dans une partie spéciale. La détérioration du droit de l'individu, du sens de l'individuel, des droits de l'homme, tout simplement des droits de l'homme, la valeur de l'homme en tant qu'homme, la valeur de l'homme en tant qu'homme qui dépasse celle même de l'État. Oh, Pluton dans le signe du lion, il a dit, mais rien de ça s'il vous plaît. Vous êtes tous que des bêtes de somme, et si vous ne le savez pas, on va vite vous l'apprendre. D'où? Comme il est carré dans le lion, le signe du taureau, et qu'il est carré le signe du scorpion, là, attention maintenant, il ne faut jamais oublier que lorsqu'une planète change de signe, elle fait immédiatement Dans le climat psychique d'une époque, la quadrature au taureau, dans le lion, et la quadrature au scorpion. De sorte que les camps de concentration, ça a encore été Pluton dans le lion. A-t-on jamais pu concevoir avant 39 qu'on aurait dans notre 20e siècle des camps de concentration, des prisonniers à vie? Non. Mais c'est rien, ça. Nous avons eu les crématoires, les fours crématoires. Nous avons eu les tortures. Nous avons eu la mort par des tortures délibérées et savantes. Car c'est Pluton carré le scorpion qui est la porte de la mort, car la façon dont chacun de nous meurt correspond au signe du scorpion, plus exactement à notre 8e maison. Alors, expédier les gens dans la mort, pas par des voies harmonieuses et agréables, mais précisément en rendant leur dernier souffle absolument intolérable, par des cruautés innommables. Ça, c'était Pluton lion carré le scorpion. Et les gens qui ont eu des planètes dans le scorpion pendant que Pluton était dans le lion l'ont bien senti. Les hécatombes. Nous disons que là, on croit, peut-être avec raison, que le signe du scorpion, c'est le signe essentiel de la suivre. Eh bien, mon Dieu, vous avez vu que eux particulièrement en ont souffert. D'autre part, le taureau aussi, c'est aussi Pluton carré le taureau. Alors, vous avez vu la dépossession, puisque le taureau représente le principe de la possession individuelle. Une fois admis que vous êtes, alors il est admis que votre signature vaut quelque chose et que vous possédez quelque chose. Bon, alors, hardi la dépossession, l'expropriation, l'arrachement de tout ce qui est à vous, mais qui est plus que... Une bête de somme, enfin c'est fini. Ça, c'est Pluton dans le lion, en deux mots, c'est ça. Alors maintenant, il a passé dans la Vierge. Et voilà Uranus, le grand guérisseur, le grand magicien, à son tour est entré dans le lion. Alors il voit tous les dégâts qui ont été faits. Et il sonne le corps, la trompette de l'ange. Et il dit, réveillez-vous tous d'entre les morts. Vous qui êtes morts sans savoir que vous êtes morts, je vous le dis maintenant, réveillez-vous. Et à tous les étages de l'évolution de l'homme, voilà Uranus qui réveille les opprimés. Et réveille les endormis. Réveille tous ceux, un peu et peu ou prou, bien entendu, selon le stade évolutif. Il réveille quelque chose dans les êtres qui ne savaient pas. Ils disposaient au fond d'eux-mêmes d'une richesse à eux inconnue. Uranus la leur rappelle, Uranus la leur infuse en partie, pendant le temps qu'il est dans le lion. C'est son signe préféré, en dehors du sien du Verseau. Il fait quelque chose du Verseau dans le lion. Il le transforme, il le prépare, il lui donne la note fondamentale du Verseau, qui est la fraternité universelle. Qui est l'homme dans tous les hommes, l'unité de l'homme dans tous les hommes, le principe de l'homme dans tous les hommes, l'éternité de ce principe dans toutes nos parties à nous. Le voilà dans le lion. Il dit, tu n'es plus une petite souillon perdue, tu es une princesse, tu vas au bal, maintenant prends ton sceptre et vas-y. Voilà, alors vous comprenez, le réveil de tous les propres opprimés. Le réveil, non seulement des opprimés, à des peuples qui ne se connaissaient aucune vertu ou aucune intelligence particulière, toute espèce de primitif. Cela se réveille, bien entendu, à un stage modéré. Mais enfin, ça les secoue. Ça fait quelque chose. Le réveil de l'Asie, essentiellement, largement, ça va être ça, car nous ne sommes qu'au commencement du lion. Je ne veux pas entrer dans le phénomène qui a pu se passer lorsque Uranus était dans le cancer. Ça m'amènerait beaucoup trop loin, j'ai un sujet très spécial ce soir. Voilà ce que fait Uranus dans le lion, c'est le grand guérisseur. C'est le grand redresseur de tort pour tout l'eau qui se lève. C'est les chaînes qui tombent. Elles tombent pour les Français. Elles tombent pour tous les hommes, à des degrés divers. Mais elles tombent aussi pour les Arabes. Mais elle tombe aussi pour les Chinois. Mais elle tombe pour les Hongrois et les Polonais. Et elle tombe pour pas mal de Russes également. Pourquoi pas? C'est les hommes. C'est les hommes. Bref, elle tombe partout. Elle enlève les chaînes. Elle le fera d'autant plus dans les thèmes individuels que l'Uranus du thème est en bon rapport avec le Soleil à la naissance ou alors avec les planètes qui soutiennent le Soleil. Ça va de soi. Oui. Mais maintenant, il faut déchanter un peu. Pluton est entré dans la Vierge. Vous savez que nous avons quatre grandes planètes les plus colossales qui ont changé de signe. Et ce mois dernier, octobre, Pluton a changé de signe le même jour que Neptune a changé de signe. Neptune entre dans le Scorpion, le jour où Pluton entre dans la Vierge. Ça nous donne un sextile exact de ces deux. Je veux autant vous dire, vous qui connaissez maintenant, ceux d'entre vous qui ont vécu, qui ont analysé profondément et qui ont vécu la réalité de Pluton, et de trouver davantage. Mais ceux qui ont vécu ça se rendent compte que ce sextile, c'est un aspect formidable qui fait qu'ils sont une équipe, ils sont un tandem, ils sont deux chevaux attelés à chaque côté d'un timon. Que l'un dit noir, l'autre dit blanc, c'est le nègre blanc. C'est le double talk, comme on dit en anglais. C'est le langage nègre blanc, l'un dit noir, l'autre dit blanc, portant sur le même sujet. C'est la contradiction constante de l'un par l'autre. C'est la confusion de l'un par l'autre. C'est la confusion des langues, c'est la confusion des esprits. C'est un aspect colossal dans sa subtilité intérieure. L'enfant qui est né avec ce sextile, Dieu sait s'il est rare dans l'histoire, ce sextile-là, puisque la planète Pluton prend presque 250 ans pour faire son cycle. Mais celui qui aura ce que nous avons maintenant, Saturne dans le Sagittaire, carré le Pluton de la Vierge, Neptune dans le Scorpion, sextile de Neptune, le Pluton, et Uranus dans le Lion, eh bien, cet enfant-là, vous n'avez qu'à méditer sur la relation seule de ces planètes, et vous verrez qu'il incarne bien ce qui se passe dans le moment présent, dans le monde entier. Car, dans la Vierge, Pluton est entré dans un signe fixe, dans un signe mutable. Saturne aussi, le Sagittaire. Non, nous sommes sur le plan maintenant de la croix mutable, la croix mentale, la croix de l'intelligence, la croix du système nerveux aussi. L'arbre nerveux de l'être, c'est ça. L'arbre nerveux de l'être, c'est la mutable. Les communications téléphoniques intérieures de l'individu, autant qu'elles atteignent l'intelligence, se font sur la croix mutable. Bon. Alors il est là dans la Vierge. Comme il est en carré du Gémeaux, il bouscule l'élocution du Gémeaux. Le libre jeu du Gémeaux, il est secoué. De l'autre côté, il secourait le Sagittaire qui est pourtant la synthèse intellectuelle et philosophique, la vision du monde de chacun de nous. Notre étoile polaire, si vous voulez, ce qu'on appelle le Nord chez nous. Bon. Mais il y a Saturne là. Il y a Saturne qui lui dit, attention, tu ne feras pas ça. Je suis là. Oui, mais seulement Saturne a instauré le principe d'équilibre à la neuvième maison, au neuvième signe, à vouloir instaurer ce principe d'équilibre à une lutte. Il a une bataille, ça ne se fait pas comme ça. Il est en quadrature de Pluton. Cherchez dans les thèmes les gens qui ont des quadratures Saturne-Pluton. C'est une quadrature très subtile parce qu'elle n'est pas évidente, elle est en dessous. Mais toujours est-il que c'est une instabilité, pas frémissante comme si c'était la Lune qui était en jeu, mais c'est une instabilité tourbe. Voilà le mot, tourbe de l'instinct d'équilibre dans l'individu. Alors là, dans les plans mentaux, il y a une instabilité. Les gens sont plus exactement sûrs qu'ils y voient clair dans ce qu'ils appelaient leur philosophie de la vie. Je sens très bien ce qu'il y a de trop bref dans ce que je dis, mais vous me suivez. Vous pouvez me suivre, mais je peux reprendre ça à volonté. Voilà pour la quadrature. Le voilà là, textile à Neptune, c'est le parler nègre-blanc. Les Nations Unies, mais c'est fantastique, le nègre-blanc. Le langage de la Russie, mais c'est fantastique. On ne croirait pas qu'un homme dans sa peau normale pourrait raconter les histoires que raconte la Russie aujourd'hui. C'est ça. Et qu'ils aient, disons le mot, pardonnez-moi le mot, le culot, de le faire comme ils le font, c'est qu'ils vous disent, les gens sont tels imbéciles, ça passera. Parce qu'eux sont carrément l'incarnation, pour autant que ce gouvernement soviétique-là, c'est carrément l'incarnation de la voix de Pluton dans la Vierge. Parce qu'il faut bien s'entendre, Pluton c'est le principe de décomposition dans l'univers. Et Uranus, c'est le principe de composition dans l'univers. Un univers est en train de se composer tout le temps. Nous ne serions pas là sans composition. Sans un degré de composition. Par conséquent, nous avons ascendé, nous avons passé d'une composition mineure à une composition majeure, à une composition transcendante. Tout le devenir de l'homme, c'est cette composition toujours plus transcendante. Par conséquent, elle est partie de quelque chose, d'un point alpha, d'un point A, et ce point A, c'est le Pluton dans nos thèmes. Qui alors, lui, est l'extrême limite de la décomposition du mineur. Il est incapable de nous décomposer, tenez-vous bien, incapable de nous réduire à la fission de l'atome, qui serait vraiment le dernier mot. Mais il est toujours capable de nous faire sentir et de taper en nous ce que l'on peut encore décomposer. Dans le travail de composition, il travaille à voir un peu, voyons, est-ce que je peux ébrécher un petit peu ce petit côté du cercle du soleil? Est-ce que je peux manger un petit peu, lui chipper une petite partie de lui-même? La maman du soleil lui tape sur les mains, elle lui dit, veux-tu laisser ça tranquille? Mais de temps en temps, la maman ne l'a pas vu tout de suite, et il a chipé un petit morceau. Il ne prendra jamais le soleil, bien entendu. Ça, c'est définitif. Le monde ne serait pas le monde, on n'aurait pas de justice autrement. Mais c'est ce principe de décomposition, de division, c'est le multiple vers, contraire à l'un, c'est celui qui tend, sur le plan humain, à diviser, alors que le Neptune tend précisément à unifier, c'est le principe contraire. Le Neptune, c'est la quintessence de l'un, et l'autre, c'est la quintessence du multiple. Maintenant, travaillez cette métaphysique, ceux qui n'ont jamais pensé à ces choses, à aucune métaphysique, travaillez-la comme vous voudrez. Voilà, en bref, ce que représente Pluton dans la Vierge. Et comme c'est un signe de composition transcendante mentale, comme le corps humain lui-même est essentiellement celui de la Vierge, que le corps humain c'est une composition, une architecture, un blueprint, comme on dirait en anglais, un archétype que nous avons tous en nous, autour duquel viennent se placer les molécules de notre alimentation quotidienne, selon une charpente très établie, qui est celle précisément de la formation essentiellement, comment dirais-je, synthétique, unifiante de la croix mutable, de la croix mentale, vous en voyez que là, il a beau jeu à grignoter ça par la droite et par la gauche. Et tout ce qui représente la mémoire de l'humanité, les institutions scientifiques, les institutions morales, les académies, les écoles, les grandes traditions, dans ce qu'elles ont de bon, et aussi dans ce qu'elles ont de mauvais. Alors il a une vertu, c'est qu'il fiche tout en l'air. Alors il secoue l'arbre et quelquefois il y a vraiment des feuilles mortes qui auraient dû tomber. Alors là, il faut le dire que le principe de décomposition a du bon, car il détruit et ce qui va subsister après qu'il aura bien secoué le pruneau, eh bien, ce sera un arbre solide. Il n'y a pas à dire, nous savons tous que lorsque nous avons dû affronter le grand principe de décomposition dans notre être, et que nous l'avons dépassé, et que nous avons survécu à cette tentative de décomposition, de dislocation, dont la schizophrénie est sur le plan mental la plus grave manifestation, la dissociation de la personnalité, lorsque nous avons résisté à ça et que nous l'avons dépassé, nous avons atteint une profondeur, nous avons atteint une solidité. Et nous savons que nous sommes solides. alors qu'avant nous ne le savions même pas. Nous savons de quoi est fait notre solidité. Voilà pour Pluton dans la Vierge. Mais voilà pour le Neptune dans le sextile. Voilà pour l'équilibre instable du Saturne dans le Sagittaire. Vous voyez que nous avons là deux planètes, Neptune, Soleil, signe fixe, travaillant précisément pour le devenir de l'être, et deux dans les signes mutables qui travaillent à contre-temps pour tantôt l'équilibre du mental et tantôt son déséquilibre. Bon, pour vous en donner un exemple, prenons l'histoire. Ceci, ce que je raconte, je sais que c'est vrai. Je suis payé, comme on dit, I'm paid to know it's true. Je sais que c'est vrai, c'est de la théorie. C'est de la science expérimentale, c'est de la psychologie expérimentale. Je sais que c'est comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je viens à Paris, et je veux être à Paris, pour le dire et le répéter à satiété. Parce qu'on ne le saura jamais assez. Et parce que précisément ce principe de désagrégation ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui fiche la paix. Et qu'il continue son grignotage parmi les cœurs et les êtres les meilleurs et les plus intelligents, mais toujours en cachette. J'ai vu une remarquable annonce dans un journal américain il y a un mois. Et c'était l'appareil d'astronomie, un espèce de radar tourné vers les cieux, qui captait, disent les astronomes, les rayons qui ne sont pas lumineux. Les rayons d'astre, tenez-vous bien, les rayons d'astre qui ne nous envoient pas un reflet, ou enfin qui n'émettent pas ce qui est sensible à l'optique de l'homme. Par conséquent, les télescopes ne les voient pas, puisque le télescope est fonction de notre œil. Bon. Mais il y a des astres qui sont invisibles et qui sont des foyers d'émission de rayons. Donc, ils sont foyers, quelques-uns sont probablement reflets d'autres qui sont foyers, mais tout ça dans l'invisible. Et nous avons maintenant des appareils qui réussissent à enregistrer ça. Vous comprenez ce que ça signifie au point de vue de la découverte d'astronomie? Est-ce que ça ouvre des perspectives? Alors, tout de suite, à Zadig. Uranus est dans le lion. Étonnez-vous de ce que la France, qui était certainement une des premières antennes de l'humanité du globe, et Dieu sait, elle l'est encore, mais enfin, à cette époque, elle en était peut-être une des toutes grandes, que ce soit sorti d'elle, cette fameuse déclaration des droits de l'homme. C'est Uranus qui parle dans le lieu, c'est ça. Et ça a très bien marché pour commencer. Vraiment, au même temps, très peu de temps après, avant le consulat, plus exactement avant l'Empire, Pluton avait passé du Capricorne, où il était lors de la Révolution américaine de 1776, il était entré dans le Verseau. Il est venu à un moment donné où il s'est trouvé en opposition d'Uranus, Lion, Verseau. Alors, vous comprenez, Pluton dans le Verseau, c'est pas faire des hommes des frères, c'est la décomposition de la fraternité. C'est une décomposition serrée, celle-là. Pluton niait formellement, dans le signe précisément d'Uranus, là où Uranus n'était pas à ce moment-là, il était en train de travailler dans le Lion. Il a tâché de saccager toute l'idée de l'égalité, liberté, fraternité. La fameuse fraternité de la Première République française a été complètement chambardée parce qu'il y avait cette opposition. Et vous imaginez ce que les oppositions font. Alors, la liberté, les armées françaises allaient en Italie, elles allaient en Allemagne, elles partaient de tous les côtés au nom de la libération des peuples. Mais une fois qu'elles y étaient, les braves soldats n'y étaient pour rien. Il se trouvait qu'une politique de perversion de ça tout le temps dans le verso se passait à Paris, et on développait ainsi des annexations graduelles sous un prétexte quelconque. Jamais ce n'était l'idée de la déclaration des droits de l'homme de faire ça. Jamais. C'était la perversion. Cette perversion, d'ailleurs, s'est fait sentir tôt après d'une façon presque pire, lorsque Pluton a passé dans les poissons. Le malheur dans les poissons, ça a été quelque chose de colossal, parce que dans les poissons, c'est-à-dire à partir de 1800, il était dans les poissons déjà en 1804, lorsque Napoléon a été couronné empereur. Je pense qu'il l'était oui déjà, mais alors autour de 1918, s'est passé un phénomène formidable. Uranus et Neptune étaient en conjonction. Regardez l'éphéméride de ces années-là, je le possède pour deux siècles. Je possède un éphéméride de 1800 à 2000. Lorsque ces deux planètes étaient en conjonction dans le Sagittaire, les voit-il pas qu'elles sont en carré de Pluton, Pluton poisson, carré ces planètes dans le Sagittaire. La culbute la plus formidable dans le jeu de l'évolution. Ça nous a donné quoi? Mais nous, ça a donné le renversement de l'idée de la démocratie, le renversement des droits de l'homme sous la forme d'une mystique sociale invertie totalement, d'une idéaliste invertie, c'était la Sainte Alliance. C'est le droit divin des rois, c'est la monarchie absolue qui revient avec Louis XVIII, avec Charles X, avec les rois de Prusse, l'empereur de Russie, l'empereur d'Autriche. C'est l'installation de nouveau d'un système plus féodal et plus fermé que jamais, puisque les droits de la presse et de réunion en France étaient interdits, et ils étaient interdits presque partout en Europe. Il a fallu la Révolution française de juillet 1830 pour bouleverser ça et créer les premières commotions libératoires. Voilà ce que c'était dans le poisson. Alors vous vous dites maintenant que, enfin, le voilà passé, 180, depuis ces années-là, 150 ans plus tard, le voilà maintenant dans la Vierge, dans le signe opposé. Alors, vous pouvez frotter la votre tête et méditer dans le silence ce que ça peut signifier. Je le prends encore comme aspect comme ça. Je le prends encore à une autre époque significative. C'est 1872. En 1872, deux ans après la débâcle de Sedan, la guerre de 70, en 72, Uranus entre dans le lion. C'était depuis 92, c'était la première fois. Maintenant, c'est la troisième. Il entre dans le lion. C'est la troisième République française. C'est le départ de nouveau d'une... On commence à souffler, on commence à se dire, mais après tout, on est quelque chose dans le monde. On existe, quoi. On est des hommes. Voilà la République de nouveau. Abat l'Empire, abat les monarchies, abat les pouvoirs absolus, arbitraires. Vive la justice sociale, vive la justice des tribunaux, vive le respect des droits des hommes. Et ça va à un moment. Ça va à un moment, si l'on regarde l'histoire des autres peuples, nous le trouvons également. Chacun peut ou prou. Et ça va. Pour la France, nous sommes en France, vous connaissez votre histoire, vous êtes censé la connaître. Ben, ça va à un moment. Mais qu'est-ce qui commence à crocher autour de 1878, 77, 18, 19? 80, 82, qu'est-ce qui va de travers? Uranus s'est remonté dans les derniers degrés du lion, accroché par quadrature, Pluton dans le taureau. Alors tout d'un coup, il y avait le principe de démolition, de décomposition, je préfère ce terme, décomposer, le principe de décomposition qui accrochait le principe de composition, c'est une réaction chimique très naturelle. L'un a dit à l'autre, mais dis-moi, tu vas trop vite, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, qu'est-ce que tu fais de moi? Recommençons ça un petit peu et je t'arrête. Je t'arrête en tout cas un moment. Ça s'est traduit par le fameux traité de Berlin. Ça s'est traduit par le fait que le tsar libérateur, pensez donc, le tsar Alexandre II, libérateur en Russie, qui a, durant cette période qu'Uranus était dans le lion, aboli le servage en Russie. Vous entendez le servage? qui a été même s'engager dans une guerre contre les Turcs qui opprimaient tous les Slaves des Balkans. Eh bien, tout ça a été arrêté net. Le tsar a été assassiné. Et le régime de son fils Alexandre III a été un régime réactionnaire. La Prusse avec Bismarck a été réactionnaire. Et on a eu un système général de réaction à cette éclosion de la liberté des peuples. Voilà. Pourquoi ça? Parce que Pluton et Uranus se faisaient dans la nature. Et vous voyez que l'idée de donner aux paysans la terre comme un signe de son individualité a été tout d'un coup arrêtée parce que Pluton est dans le signe du taureau, qui est le signe même de la terre. Voilà ce que j'avais à dire sur les exemples de cette fonction plutonienne de Pluton dans le monde et de cette fonction uranienne dans le monde, et le jeu de l'un sur l'autre, en se pénétrant toujours bien de ce fait que c'est toujours ce principe-là qui est le vainqueur, parce que ça, son existence même, qui est comme la tiare du pape faite de plusieurs couronnes intérieures, son existence même a ses cercles concentriques et la démonstration péremptoire que le principe de composition a vraiment s'est dégagé, s'est affirmé et a maîtrisé le principe de décomposition. En le mettant sous cette forme très simple. Voilà, c'est ça. C'est ça le principe uranien. Dans le thème, nous avons le soleil. C'est nous. C'est l'être. L'être de nous. L'être immobile, l'être fixe, pas immobile, mais fixe de nous. Fixe par rapport à ce qui est mouvant, à ce qui est changeant. Fixe dans ce sens. Il se transcende tout le temps lui-même par lui-même, par conséquent, on ne peut pas dire qu'il est immobile. Mais enfin, c'est sur lui-même, c'est cet axe fixe. Et nous avons le Mercure, nos astres, nous avons Mercure, et nous avons Vénus, et nous avons Mars, nous avons Jupiter, et nous avons Saturne. Cela! Ce sont les attributs de notre être qui nous lient, c'est la personne personnelle, c'est l'inconscient, c'est l'âme personnelle, individuelle, mais à partir de Saturne, nous entrons dans l'âme du monde, l'âme de l'humanité. Car après tout, il faut d'abord penser à l'humanité qui est le monde intérieur qui nous porte et qui nous soutient par solidarité, dont nous faisons partie et dont nous sommes les représentants incarnés. Cette humanité supérieure qui fonctionne d'après des lois cosmiques invariables, des lois qui ont permis même la constitution de la Terre elle-même, qui garantissent le devenir de la fonction Terre-Lune, le devenir du système Terre-Lune autour du Soleil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, cercle concentrique, les uns dans les autres, mouvement de translation sur des cônes qui représentent tout le monde de la durée. Voilà ce qui a vaincu, ce qui était à l'origine, comment dirais-je, relativement parlant, par rapport à ça, le chaos. Je reprendrai ça vendredi 16. Je reprendrai ceci vendredi 16 et le mois de décembre, le 5 et le 13. Je prendrai probablement l'un des grands axes. Je filerai peut-être à fond toute cette histoire de la croix fixe avant de prendre la cardinale et surtout la mutable. Nous n'aurons pas, chers amis, je ne pense pas, au fond de moi-même, et d'après, dans les limites de ma propre vision des choses, ma limite de ma propre compréhension de ce que j'ai devant les yeux, nous n'aurons pas de guerre mondiale maintenant. C'est hors de question. Une guerre mondiale, faudra inclure les pays jaunes, l'Asie, l'Extrême-Orient, la Chine, le Japon. Ces deux pays seuls représentent 800 millions d'habitants. Il n'y aura de guerre mondiale qu'avec leur concours. Le monde n'est pas prêt. Le monde qui voudrait anéantir l'Occident n'est pas prêt à le faire, et de loin. Je crois qu'essentiellement, la position du Soviet est une position de bluff, de pression psychologique. Et j'ose espérer que le président des États-Unis, comme toute la voix de l'Amérique, comme toute l'Amérique que je connais bien, puisque je suis à la fois suisse, genevois et américain, étant né en Amérique et ayant vécu 30 ans là-bas, j'ai senti toute cette semaine toute la vibration intense du peuple américain, dans lequel se trouvent plus de Polonais qu'en Pologne et plus de Hongrois qu'en Hongrie, incidemment. Et j'ai bien senti que le président Eisenhower serait réélu quand ce ne serait qu'à cause de la crise actuelle, qui est en état de guerre morale définitive, radicale, intransigeante, sans compromis possible, la préparation à la guerre physique, si jamais il y en a eu. Nous sommes prêts vraiment pour une guerre physique. Et la Russie ne s'engagera pas car elle n'est pas prête. D'autre part, ça vous intéressera de savoir que le regard jeté, que j'ai jeté sur le thème des États-Unis, je crois posséder, comme beaucoup de mes collègues américains et ailleurs, je crois posséder le thème de naissance authentique des États-Unis.